liberté est un mot que le rêve humain alimente. Il n'existe personne qui l'explique et personne qui ne le comprenne. Les êtres humains sont des animaux mammifères, bipèdes, qui se distinguent des autres mammifères, comme les baleines, ou bipèdes, comme la poule, principalement par deux caractéristiques. Le téléencéphale hautement développé et le pouce préhenseur. Le téléencéphale hautement développé permet aux êtres humains d'emmagasiner des informations, de les mettre en relation, de les ordonner et de les comprendre. Le pouce préhenseur permet aux êtres humains un mouvement de pince des doigts. Celui-ci, à son tour, permet une manipulation de précision. Le téléencéphale hautement développé, allié à la capacité de faire un mouvement de pince avec les doigts, donna à l'être humain la possibilité de réaliser d'innombrables améliorations sur sa planète. Entre autres, de cultiver des tomates.
Des corps, de la bricole et un de ces merdiers.
Sur Radio Piquet.
Jean-Michel Lucas, je suis un militant des droits culturels. C'est-à-dire, j'essaye de faire passer l'idée que la législation française a changé et que maintenant, dans les discussions sur la culture, le patrimoine, la mémoire, il faudrait se référer aux droits culturels et pas simplement aux vieilles traditions françaises.
La politique culturelle, c'est plutôt habituée à satisfaire les attentes des publics fidèles en organisant une offre artistique de qualité. Or, avec les droits culturels des personnes, la responsabilité publique est différente. Elle devient surtout de respecter la liberté de chaque personne de participer à la vie culturelle. Cette expression, eh bien, pour avoir été directeur régional des affaires culturelles, je le sais mieux que quiconque, cette expression est inconnue du vocabulaire de la politique culturelle française. Participer, le droit de participer à la vie culturelle.
Céline Romainville est chargée de recherche du FNRS et qui est chargée de cours invitée à l'université de Louvain-la-Neuve, de Saint-Louis et de l'ULB. Voilà.
D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de politique culturelle? Que dans notre pays et en France également, plus ou moins, on peut dire que les grands récits qui ont guidé l'action culturelle sont au moins en nombre de trois. D'abord, il y a eu les politiques qu'on a dit, les politiques de rassemblement, c'est-à-dire de rassemblement des citoyens autour de l'imagination d'une communauté d'histoire, de valeurs, par la mise en valeur d'un patrimoine commun. C'était des politiques donc artistiques, en fait, plutôt que culturelles, qui étaient essentiellement concentrées sur la question de la conservation et de la promotion du patrimoine culturel. Et avec ça, l'éducation d'une élite qu'il convenait de faire rayonner dans les autres États-nations. À cette politique artistique nationaliste, se sont succédés deux autres grands récits de l'action culturelle. La démocratisation de la culture dans les années 50-60, une politique centrée sur la valeur esthétique des œuvres jugées les plus significatives et qui vise à poursuivre l'objectif de promotion de la fréquentation par le plus grand nombre des activités culturelles. Concrètement, on met des politiques en place visant à soutenir les artistes et à multiplier surtout les lieux de diffusion, permettant ainsi à chacun d'avoir un accès d'abord géographique, en réalité, à la culture. Donc c'est une politique essentiellement institutionnelle qui vise donc à créer des lieux de culture décentralisés. Alors, les mouvements culturels et sociaux de mai 68 vont fortement critiquer cette pensée. Bon, ils ont prôné un nouveau modèle qui s'appelle la démocratie culturelle. C'est quoi ? Ben, c'est une autre politique qui, elle, est nourrie notamment d'une critique radicale de la consommation culturelle et de la culture de masse, accusée d'être passive, purement réceptive, non critique, abrutissante et démobilisante, en plus d'être jugée bourgeoise et reproduisant les inégalités sociales. La critique, c'est qu'elle ne laisse place aucunement à l'action, et donc on va développer une autre politique, la démocratie culturelle, qui sera, qui revêtra des formes différentes selon les secteurs, mais dont l'objectif général, c'est de permettre à chacun d'être acteur de sa propre vie, de développer sa propre conception du monde. Et donc, il y a par là une valorisation de toutes les vies culturelles, de toutes les conceptions du monde. À ces grands récits des politiques culturelles qui ont marqué le développement des politiques culturelles telles qu'on les connaît, se sont ajoutés ces dernières années d'autres objectifs. La diversité culturelle, l'interculturalité, le multiculturalisme, des objectifs qui, par certains aspects, se sont quelque peu éloignés de la perspective, on va dire, citoyenne, ou structurée autour de l'idée plus ou moins forte et plus ou moins remise en question de cohésion sociale qui était développée dans les années 60. Alors, à l'empilement évident des fonctions des politiques culturelles auxquelles qu'on constate aujourd'hui, c'est adossé, selon beaucoup d'auteurs qui analysent ces politiques, un véritable essoufflement de l'ensemble de ces fonctions. Il y aurait un problème de lisibilité des politiques culturelles et une perte globale d'intérêt du politique, des élus, pour l'objet même de l'action culturelle publique. Selon nous, justement, cet empilement des fonctions et cette perte de lisibilité rend ces politiques d'autant plus perméables à des discours comme celui des droits fondamentaux. Et c'est, à mon sens, ce qui explique qu'on constate une montée en puissance de ce référentiel des droits fondamentaux dans les politiques culturelles, d'abord au niveau international, au niveau de l'UNESCO, hein, qui a eu tendance à faire de ces droits culturels le nouveau référentiel, sans doute parce que plus consensuel, hein, que les autres référentiels existants, et puis également maintenant, plus ou moins au niveau national. Or, comme nous allons le voir maintenant, cette importance croissante du référentiel des droits culturels pour les politiques culturelles n'est pas sans poser de questions. D'abord parce que ces droits sont restés parmi les moins développés de tous les droits humains que l'on connaît, conceptuellement, juridiquement, mais même politiquement. Il est parfois compliqué même d'identifier en réalité l'idée politique qui est poursuivie par ces droits. Les droits culturels, en fait, n'ont fait l'objet d'une positivation, d'une juridicisation assez tardive. Même si leur source remonte en réalité à la Déclaration universelle, donc de 1948, sur les droits de l'homme et du citoyen, en réalité, leur régime juridique n'a été développé qu'assez tardivement. Donc ça reste des notions assez floues, assez flexibles. À première vue, dans le discours sur les politiques culturelles, le droit de participer à la vie culturelle n'apparaît certainement pas comme étant central. Alors, c'est vrai que l'accès à la culture est souvent considéré comme la pierre angulaire ou une des priorités politiques. Elle est considérée comme allant de soi, mais elle est très rarement formulée en termes de référence à des droits. Le référentiel, en fait, le plus prégnant reste celui de la décentralisation culturelle, de la diversité culturelle, de l'exception culturelle, du soutien à la création, éventuellement, quand on a un peu de courage, de la démocratisation et de la démocratie culturelle. Mais quasi jamais des droits fondamentaux tels quels. Alors au niveau des acteurs et des opérateurs de terrain, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme d'intégration de ce langage ? Assez peu en fait. On peut plutôt penser qu'il y a une forme de mise à distance, quasi délibérée par certains endroits, avec le discours sur les droits culturels et le droit de participer à la vie culturelle. En tout cas, ce discours n'est pas formulé comme un objectif central par les acteurs. Et il n'est d'ailleurs quasi jamais mobilisé par les acteurs culturels dans des procédures judiciaires visant à faire reconnaître leurs droits. On peut constater l'absence de formulation en termes de droits culturels, des indignations, des réactions face aux mesures qui frapperaient le contenu même de ce droit. Par exemple, le récent débat sur l'obligation de payer dans les académies de musique n'a pas été vraiment formulé en termes de droits fondamentaux des enfants d'accéder à la culture. Ce qui peut être étonnant d'ailleurs. Donc, le droit de participer à la vie culturelle n'apparaît pas comme un outil privilégié de revendication, ce qui explique le peu de développement jurisprudentiel. Finalement, on constate que les référentiels des acteurs, c'est la médiation culturelle et c'est une logique plutôt économique de développement de l'action dans ce domaine, mais moins la logique des droits.
Et nous avons le plaisir d'accueillir Christine Mailly.
Moi, je vais intervenir à partir du point de vue suivant. En fait, très fort finalement comme une personne qui a traversé divers champs professionnels et qui aujourd'hui suit secrétaire général du réseau wallon de lutte contre la pauvreté. Et je ne vous cacherai pas que parfois quand je dis à des gens du monde culturel que je suis devenue secrétaire général du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, j'ai l'impression d'être dégradée d'un coup. Parce qu'il est quand même beaucoup mieux d'être directrice d'une maison de la culture. Parce que quand même la culture est quand même nettement plus vertueuse que la lutte contre la pauvreté. Et la culture serait quand même a priori du bon côté de la barrière et certaine qu'elle est en train de travailler à réduire les inégalités et à faire des choses bonnes de façon bien pour les gens et l'entièreté de la population probablement. Alors voilà, comme son nom ne l'indique pas, être secrétaire général du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, ce n'est pas du tout gérer la pauvreté, c'est précisément avec les personnes concernées aujourd'hui par l'oppression, et Dieu sait s'ils sont nombreux, je vais y revenir, c'est conquérir ou reconquérir des droits. Et donc le droit culturel, il est à conquérir. On a beau faire des discours incantatoires, l'inscrire dans des textes et décider qu'il a existé intrinsèquement, il n'existe pas. Il va falloir le conquérir, il va falloir le conquérir avec les gens, pour les gens, par les gens. Et pour les gens, par les gens, par tous les gens. Pour ceux qu'ils sont tous, dans leurs caractéristiques et leurs particularités. Et il va falloir le conquérir à côté des autres droits qui sont en perte de vitesse majeure, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à un revenu, le droit à un travail librement choisi. Tout ça est en train de se perdre et de se déliter complètement. Et donc, si le droit à la culture ne prend pas la mesure de cela et ne s'inscrit pas à côté de ça, ce sera une conquête difficile. Ou alors, le risque, c'est que la culture devienne collaboratrice du colmatage de la perte des autres droits, et donc collabo du couvercle sur la casserole, ce que malheureusement elle a déjà été, elle n'est pas toujours heureusement, mais qu'elle pourrait encore être longtemps si elle ne se pose pas ces questions-là, en tout cas dès le départ par rapport à ça. J'ai envie de déconstruire l'idée que la participation à la vie culturelle dans les politiques sociales, ce lien entre les deux devrait être automatique. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres d'Eurostat qui sont sortis aujourd'hui. Alors on dit que ce n'est jamais des statistiques, mais enfin, ici en Belgique aujourd'hui, 23,4% des personnes sont en situation de pauvreté. Et ce n'est pas que la pauvreté monétaire, ça c'est le cumul de la pauvreté monétaire au cumul de la déprivation, c'est-à-dire de quoi les gens se privent volontairement d'eux-mêmes pour arriver à tenir. Quand on fait ce calcul-là, 23,4%, ça c'est pour les gens dont on estime qu'ils sont à 1 000 euros en vivant seuls au seuil de pauvreté ou à 2 100 euros par mois pour deux adultes et deux enfants. Mais j'imagine et j'espère que dans votre environnement, au nom de la mixité sociale, vous connaissez autour de vous des gens qui ont 1 100 euros et pourtant qui ne sont pas chappés de l'auberge, comme on dit. Donc ils ne sont pas dans les statistiques, ceux-là. On est à beaucoup plus que ça de gens qui aujourd'hui ont une difficulté d'accéder aux droits fondamentaux, au droit au logement, au droit à un enseignement, au droit à la mobilité, au droit au travail, librement choisi, au droit et donc forcément au droit à la culture. Est-ce que pour autant ils sont dénués de culture? Ça c'est faux. Ça c'est faux puisque tout le monde a son terreau et son terrain culturel. Sauf que peut-être le terreau et le terrain culturel de toute une partie des gens n'arrivera pas à trouver un espace pour pouvoir se dire et se réaliser si les autres droits sont opprimés. Et puis n'arrivera pas non plus à s'exprimer parce que dans le droit culturel même, ils vont être opprimés par le fait que le potentiel qu'ils amènent sur la table ne serait pas celui qui serait souhaitable ou désirable, ne serait pas celui qui conviendrait à ce que certains, à un moment donné, s'autorisent à dire dans la société comme étant la culture à laquelle il faut accéder, la bonne culture, le lieu où il faut arriver, etc., au nom de je ne sais pas quel repère. Donc, quand je rencontre moi des gens au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, mais Christine, tu sais, être appauvri aujourd'hui, parce qu'ils ne nous parlent pas de pauvreté comme un état de fait qui leur tombe sur la tête parce qu'ils seraient idiots et qu'ils compteraient mal et qu'ils ne savent pas s'y retrouver dans leur papier. Ils nous disent on est appauvri parce que c'est un processus de devenir pauvre. Si on est appauvri aujourd'hui, c'est parce qu'on est privé d'accès et d'usage à des richesses matérielles. Alors, je ne vais pas détailler parce qu'on n'a pas le temps ici, mais donc ils disent portefeuille, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme revenu, combien le loyer coûte, etc. Et puis ils nous disent on est appauvri parce qu'on est en privation d'accès et d'usage aux richesses immatérielles. Et quand ils parlent des richesses immatérielles, ils parlent énormément de l'école, en disant mais l'école rate avec nous. Et ils parlent énormément de la culture, ils parlent d'autres choses aussi, mais ils parlent énormément de la culture. Et quand ils parlent de la culture, ils disent deux choses en gros. C'est on voudrait pouvoir y participer, mais on doit d'abord investir l'entièreté de notre temps, de notre énergie, de notre créativité à tenir pour vivre. Et donc on mange notre potentiel d'énergie, on mange notre potentiel de temps, on mange notre potentiel d'argent, mange notre potentiel d'inventivité, parce qu'il faut être inventif pour tenir, pour régler le logement, l'énergie, la santé, l'école, les déplacements, les tatata, les tatata, les tatata. Et donc quand on mange ça, on se vide. Et quand on se vide, on se vide aussi de qui on est. Et donc ce n'est pas qu'on soit sans potentiel culturel, ni même sans énergie culturelle, mais à un moment donné, on la laisse s'éteindre pour mettre aux priorités de la survie. Et la laisser s'éteindre, c'est perdre l'opportunité de la mettre en commun avec d'autres, etc. Donc les gens ne sont pas responsables à titre individuel de ça. La société, la collectivité, la manière d'organiser les choses est responsable de cet état de fait qui dégrade une partie des gens. Et on doit faire attention que dans le droit culturel, dans la manière dont on organise nos institutions culturelles, on ne participe pas à cette dégradation-là, en mettant comme ça des espèces d'escaliers de valeurs vers lesquels les gens devraient aller, plutôt qu'entendre le chemin d'où ils partent et quel est le fil dans la pelote de laine qu'ils vont tirer pour pouvoir en faire quelque chose. Voilà, et dans les richesses d'ailleurs, hein, puisque les gens ils parlent bien de richesses, hein, ils disent « je suis privé d'accès, d'usage, de production, de faire des richesses immatérielles ». Des richesses matérielles, des immatérielles, je vais vous en parler, des relationnels. Les gens ne sont pas dupes du fait que la diversité des relations, la mixité sociale, etc., c'est un potentiel, c'est un apport. Mais comment est-ce qu'on fait pour aller à la relation vers l'autre quand on est déjà ratatiné dans le troupeau qu'on est obligé d'activer tous les jours pour arriver à tenir? Comment est-ce qu'on a encore confiance en soi? Comment est-ce qu'on sait se regarder pour se dire « j'ai quelque chose à partager avec celui qui est différent en face de moi », etc. Donc les gens ne sont pas dupes de ça. Et puis, il nous parle aussi de la privation d'accès et d'usage aux richesses naturelles, environnement, et où je passe parce que ce n'est pas l'objet. Et puis, il parle même de privation d'accès et d'usage aux richesses affectives. Il y a des gens qui nous disent aujourd'hui qu'ils se privent de vivre des relations amoureuses, qu'ils se privent d'avoir du désir et de projeter quelque chose sur d'autres, etc. Parce que c'est trop dur de tenir sur tout le reste et qu'on n'a pas envie de se faire mal tous les jours. Et puis, je vais vous dire un truc, les gens appauvris dans ces situations-là. Je ne parle pas que des plus pauvres. Hein. Là, je parle des 23,4, plus tous ceux qui ont un euro de plus que le chiffre dans les statistiques. Hein. Donc, c'est beaucoup de monde. Hein. Ça, c'est la majorité de la société. Donc, j'entendais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est ça qu'on a parlé le matin quand j'étais pas là, un tiers de désengagés. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Je ne pense pas que c'est les gens qui sont désengagés. Hein. Je pense que la société, est-ce qu'elle l'est dans l'état où elle l'est parce qu'on l'a créée comme ça et que ce sont les politiques structurelles qui sont désengagées vis-à-vis des gens? Ce n'est pas la même chose. Alors si on amène là-dedans le droit culturel, le droit à la culture, il faut vraiment y réfléchir à l'intérieur des instances, des structures, des gens, des endroits où on va vouloir le pratiquer pour que ce droit à la culture soit une véritable politique structurelle. Une politique structurelle, ça dit bien ce que ça veut dire. Hein. C'est une politique qui doit avoir son existence intrinsèque en soi par les moyens, l'énergie, l'enjeu et la définition d'un enjeu de société. Et donc, si c'est une politique structurelle, à mes yeux, elle doit se poser immédiatement la question de comment elle va intégrer dans sa politique structurelle le fait qu'elle soit certaine qu'elle va contribuer à réduire les inégalités. Qu'elle soit certaine que chaque fois qu'elle pose un acte, c'est ça qu'elle vise. Et réduire les inégalités ne veut pas dire écraser le champ de l'expression culturelle, de la créativité, etc. C'est au contraire voir comment on va se battre pour qu'il puisse avoir une existence pour tout le monde dans l'enjeu général. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, et c'est pour ça que moi, je n'ai plus envie de lier social et culture. Ça me débecte, moi, d'une certaine façon, de lier encore social et culture aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que notre société est en train de faire? Elle est en train de créer toujours plus d'emplois du social sparadrap réparateur, en délitant les politiques structurelles de leurs moyens, de leurs compétences, etc. C'est l'école qui rate avec les enfants, ce n'est pas les enfants qui ratent à l'école. C'est le logement qui rate avec les gens, ce n'est pas les gens qui veulent trouver du logement trop cher ou qui voudraient qu'il n'y ait pas assez de logements sociaux. C'est le logement qui n'a pas été pensé pendant des années. C'est l'aménagement du territoire qui a créé des crises de quartier, la non-mixité sociale, donc qui rate avec les gens. C'est la non-reconnaissance de l'évidence de la monoparentalité qui est un fait sociologique aujourd'hui dans la société et qui ne doit pas être vu comme un problème. Mon Dieu, ça serait dramatique que les gens soient séparés, donc ils coûteraient plus cher à la société et ils les amèneraient des problèmes. C'est un fait sociologique, c'est nos dispositifs qui ne s'adaptent pas au fait sociologique qui est en train de se mettre en place. Et donc, c'est la culture qui rate avec les gens. Ce n'est pas les gens qui ratent avec la culture. C'est les rendez-vous qu'il faut réussir avec les gens à travers ce qu'on a à faire dans la culture qui doivent être importants, et ça me paraît important. Et ça, c'est éminemment politique. C'est éminemment politique, et donc un droit culturel, c'est un choix politique. Un choix politique, ça se nourrit. Ça se nourrit par des moyens, ça se nourrit par des options, ça se nourrit par des choix déterminés et orientés qui doivent tenir compte de l'ensemble de ce système de société aujourd'hui pour qu'effectivement, un jour, cette énormité du champ social qui fait sparadrap auquel la culture participe très activement aujourd'hui, mais se réduisent au profit des politiques structurelles qui ne soient plus sparadrap, mais véritablement émancipatrices et choisies par les gens. Alors pourquoi je dis culture, pourquoi je dis politique sociale sparadrap, et pourquoi je dis que la culture régulièrement intervient comme un sparadrap? Ben, moi, j'y ai collaboré aussi hein, dans le début de ma vie culturelle, etc., et à d'autres moments. Mais on a nombre de politiques culturelles aujourd'hui, à travers les enveloppes bien-être qui viennent du fédéral, qui tombent sur les CPAS. Donc on a créé des trucs pour remédier palliativement à un système global qui génère la non-possibilité de participer, mais surtout le non-droit de participer, mais la non-organisation démocratique au sens fort du terme de l'organisation culturelle dans notre société comme un droit fondamental. Donc si aujourd'hui on veut que ce soit un droit, on doit se poser ces questions-là. En se demandant comment on arrive à déconstruire ce sparadrap social, aussi parfaitement qu'il soit mené à certains endroits et aussi crapuleusement qu'il soit mené à d'autres. Hein. Parce que je peux vous dire que moi, je connais des communes et des CPS et même des animateurs culturels qui retournent complètement l'article 27 contre les gens en disant, et tu te rends compte, on leur donne même ça 1,50€, ils ne sont même pas capables d'y aller. Donc, je veux dire, à quel point, au-delà de la bonne intention, ça peut créer un dégât culturel fondamental. Je prends un exemple dans le champ culturel. Quand une maman qui fréquente le réseau Wallon régulièrement, qui est une maman qui est au chômage et qui est mère de 5 enfants, et donc ses enfants vont à la bibliothèque régulièrement, puis un jour elle se fait appeler à la bibliothèque avec les enfants, et la bibliothécaire, pleine de bonnes intentions, convaincue que probablement cette maman est quand même déficiente à bien des niveaux, croit jouer un rôle d'éducatrice intelligente en lui disant, vous savez, le plus jeune n'a jamais rapporté 3 livres, tatatatatam, les autres les rapportaient toujours, voilà. Et donc, tant qu'il n'aura pas rapporté ses 3 livres, l'ensemble de la fratrie sera sanctionné de venir. Et cette bibliothécaire qui m'explique vraiment longuement qu'elle connaît bien et que c'est une manière de faire comprendre et que c'est quand même important de responsabiliser, etc. Alors, je vous donne un exemple extrême qui peut-être vous fait sursauter, mais des exemples comme ça, on en entend à l'appel dans tous les domaines, partout, y compris dans la culture. Et y compris parfois dans des centres culturels, on se dit, allez, il faut quand même que les gens fassent cet effort-là s'ils veulent qu'on leur montre, qu'on leur offre cette opportunité-là. Moi, je me porte aussi en faux donc, contre, vous l'avez compris, la politique culturelle compensatoire. L'autre jour, j'étais à Bruxelles Laïque où j'intervenais dans un débat et il y a une jeune femme d'un quartier de Bruxelles que j'ai trouvée très courageuse qui s'est levée à un moment donné et qui a dit « J'en ai marre du propos que vous êtes en train de tenir. Ce qu'on attend dans notre quartier, c'est qu'on rénove les logements, c'est qu'il y ait de l'éclairage pour qu'il y ait de la sécurité, c'est qu'on puisse avoir de l'emploi pour gagner notre vie, etc. etc. Est-ce que vous allez encore longtemps nous amener des animateurs pour venir tenir, égayer, créer, sparadratiser, enfin tout ce qu'on veut, etc. dans le quartier. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas aller faire ça et qu'il n'y avait pas des choses qui étaient bien faites, mais je trouve quand même qu'il y a des questions à se poser. Et puis, moi, je me porte en faux aussi au niveau de l'instrumentalisation d'un nouveau public captif. En général, dans la culture, quand on parle des publics captifs, on parle des publics de l'école. Hein. On parle des enfants. On dit c'est facile, on remplit les salles, donc on fait monter les statistiques dans les centres culturels parce qu'on vient au théâtre à l'école, gna. Bon, enfin, vous connaissez mieux le discours que moi, vous êtes encore dedans, moi je n'y suis plus. Mais il y a un autre public captif hein, depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, c'est les pauvres. Hein. Alors derrière le mot pauvre, vous avez entendu tout ce que je mets, hein. C'est dans les quartiers, c'est ceci, c'est cela, etc. Parce que ça fait vivre pas mal de monde aussi aujourd'hui, hein, au nom de l'alliance politique, sociale et culturelle, parce que ta. Alors si c'était émancipateur, et si c'était pour reconquérir les droits et donner du pouvoir aux populations, moi, je n'ai pas de problème. Mais je ne suis pas sûre qu'on en arrive là pour le moment. J'ai participé à ça. Hein. Je l'ai fait aussi, donc je tire dans mon jardin hein, aussi de la même façon. Et donc, je ne dis pas que ça n'apporte pas à titre individuel dans des conséquences familiales et que ça n'a pas mis en route une petite maison de quartier, etc. Mais moi, j'ai quand même vécu l'expérience. Dans une maison de la culture où je suis arrivée, où à ce qu'on débute, on aille travailler dans des quartiers, etc. Et puis avec la population en général, qui sont ceux qui ont considéré que le centre culturel était pour eux à eux, et donc qui le fréquentent à travers un abonnement, en venant au spectacle, en fait, etc., comme c'est partout. À un moment donné, l'équipe dans laquelle j'étais est arrivée à faire que tout le monde utilisait tout. Et quand tout le monde utilise tout, à un moment donné, ça devient problématique en termes de rapport de force, et les dominants reprennent le pouvoir. Et ils empêchent que ça continue. Ça, c'est une réalité. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu, d'autres l'ont vécu. Donc, on ne doit pas être dupe du rapport de force entre les classes sociales qui sont les possédants du système et qui souhaitent le garder comme tel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un droit politique et un droit structurel à la culture ? C'est organiser qui peut occuper l'espace, un espace-temps, qui peut l'occuper. Moi, j'ai vécu l'expérience d'amener les gens qui devaient apprendre à lire et à écrire à l'intérieur d'une bibliothèque. Je peux vous dire que pendant des années, ça a été un combat parce qu'ils allaient prendre la place des écoles. Ah, ils sont de plusieurs cultures, ils vont être bruyants. Ah oui, mais dans une bibliothèque, il faut être... Et ça a même été jusqu'à dire à un moment donné, mon Dieu, ils sont trop nombreux et on n'a pas le budget pour payer le nombre de rouleaux de papier écu qu'il faudra pour toute une année dans le budget provincial. Je vous raconte ça, ce n'est pas une anecdote, c'est la réalité. Mais l'espace physique, il est là à ce niveau-là, dans qui a droit à occuper l'espace-temps. Mais il se passe aussi, allez, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une réflexion sur les noyaux d'habitat, rénovation, on sait, Dieu sait si ça a une influence hein, sur la vie culturelle des gens. Et donc, il y a toute une série de gens qui se disent au plan intellectuel, très important, les noyaux d'habitat, il faut habiter près des gares, il faut économiser l'énergie, il faut. Oui, sauf qu'on n'a pas pensé qu'en lançant l'idée de noyaux d'habitat, on a organisé aucune régulation égalitaire de ça. Donc la spéculation était bon train. Qui peut aller habiter aujourd'hui près d'une gare aujourd'hui ? Ben, des gens qui ont le pognon parce que les appartements ont monté, les terrains coûtent plus cher, etc. Donc celui qui devrait le plus être là n'y sera pas. Celui qui est le plus nanti, qui peut y être, y sera. Et on peut le voir sur le plan de la culture. C'est quoi les droits culturels ? C'est l'espace physique, j'en parlais, mais c'est l'espace symbolique aussi. J'ai travaillé beaucoup dans les campings et parcs résidentiels. Il y a des gens de la culture qui se sont intéressés à un moment donné à cette question-là. À partir du moment où je suis caricaturale, mais on détourne la caravane au sens de l'art contemporain. Mais sinon, comme culturel, on trouve quand même que vraiment les caravanes, c'est fort laid, hein. Mais on habite dedans pourtant, mais c'est quand même fort laid, quoi, dans l'espace vert, environnemental, etc. C'est des tôles, qu'est-ce que c'est quand même pas beau, etc. Mais si c'est détourné à la sauce contemporaine, ça devient tout à coup un objet très intéressant. Donc on fait des gens un objet, et on oublie qu'ils vivent avec ça, et que peut-être ils ont une culture qui a quelque chose à dire à travers ça. Le droit, et je pense que vous l'avez compris, c'est aussi... à mes yeux, le droit à reconnaître l'intelligence citoyenne de tout le monde et donc l'intelligence a priori des gens. Et je vous donne deux exemples. Un exemple qui m'a touchée institutionnellement de près. Dans la région où j'habite, on a développé un festival de théâtre de rue qui n'a rien à voir avec le festival de théâtre de rue attaché plus à la diffusion et qui est plus construit à partir des gens, etc. Et bien, ce festival qui s'appelle le Bitume a été dégradé et déclassé. Au niveau du ministère de la Culture, puisque on a dit à un moment donné, mais non, et qualitativement, il n'y est pas, quoi. Il n'y est pas. Et donc, il faut qu'il aille dans une autre enveloppe que dans l'enveloppe des arts de la scène, etc. Enfin, des arts, parce que quand même, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pas au bon endroit, de la bonne façon, au bon moment. Je vous avoue que c'est une agression. C'est pour ça que je le dis, énorme par rapport à un terrain complet qui construit ça. En étant en interaction. Mais on n'a pas l'air de le vivre comme une agression, on le vit là comme des enveloppes où on a bien cadenassé les champs, etc., etc. Et un deuxième exemple que je vais vous donner de cette intelligence citoyenne qui est régulièrement dans la culture bafouée. Il y a quelques années, Philippe Gueluc, pour ne pas le nommer, a fait une exposition de ses chats sur la commune de Hotton, dans un bâtiment où se donne... maintenant, habituellement, c'est-à-dire dans la bibliothèque, les ateliers d'apprentissage du français avec les personnes d'origine étrangère. Et il se fait, en l'occurrence, que là, ce sont une très, très grande majorité de demandeurs d'asile qui viennent à l'apprentissage à cet endroit-là. Et lorsque l'expo a été montée, la pratique était, nous, qu'on défend toujours que les cours continuent à se donner, enfin, les ateliers de français continuent à se donner dans le temps de l'exposition, d'autant plus que dans une commune comme ça, en journée, il n'y a pas de visiteurs. Et donc, c'est les heures creuses, et que ça puisse faire objet de travail. Voilà que tout à coup, il était probable que ces demandeurs d'asile n'allaient pas comprendre la valeur de ces toiles, la netteté de ces toiles-là, qu'ils allaient peut-être mettre leur doigt dessus, qu'ils n'allaient peut-être pas... Et on a eu un combat, mais un combat qui a duré pour tenir tête, à dire non, nous n'arrêterons pas pendant 8 semaines. Le propos ne vient pas de Gueluc, hein. Je vous dis ça, c'est pour ne pas que vous alliez faire porter la charge à celui qui n'y était pas sur ça. Il a fallu mener un combat pour dire non, nous n'arrêterons pas pendant un mois et demi la possibilité plusieurs jours par semaine de ces personnes de fréquenter les lieux. Et oui, ces gens ont une intelligence de réceptivité à toutes sortes de choses. Et oui, on n'est pas tout à fait idiot et on peut en faire quelque chose avec eux, etc., etc. Alors, ce que je vous dis là, ça peut vous paraître caricature. À lointain, on peut se dire, oh, c'est le rural qui est un peu inepte et attardé et retardé. Je ne suis pas sûre du tout. Je pense qu'on peut trouver des choses comme ça, sous d'autres formes, dans d'autres exemples, partout, même dans les milieux culturels les plus émancipés et en milieu urbain. Donc voilà, moi j'inviterais en tout cas une manière d'aborder la mise en œuvre de ce droit culturel par une évaluation, une recherche de comment ce droit culturel va favoriser le fait de réduire les inégalités dans notre société. Au niveau de l'enseignement, on l'étudie. L'étude PISA montre que nous avons un enseignement inégalitaire, malheureusement, inégalitaire. On a mauvais résultats, mais les très bons dans notre société ont des très très bons résultats. Mais les enfants de milieux défavorisés, de milieux d'origine étrangère, ont des très mauvais résultats. C'est ça qui fait tomber la moyenne. Sinon, les enfants de milieux aisés, ils ont des très très bons. Hein. Donc on crée les inégalités. Wilkinson, dont vous avez peut-être entendu parler, a étudié en quoi les pays les plus inégalitaires avaient des moins bons résultats de santé pour tout le monde, y compris pour les riches, et en quoi les pays les plus égalitaires avaient des bons résultats de santé pour tout le monde, y compris pour les riches. Je trouve que ça serait intéressant de lier la notion de droit culturel aux autres droits, mais aussi à la vérification de en quoi la culture produit de l'égalité ou produit de l'inégalité. Et je pense qu'il ne faut pas se sentir au-dessus de la mêlée. Je suis convaincue qu'elle produit des deux.
Perdu comme un violon dans un étui de contrebasse, tiens comme une abeille sur un grelon, un joker et un caridas dans les poches d'un vieux pantalon. T'as l'air perdu comme un violon, et t'as l'air perdu comme un bouquet noyé au fond de la Garonne, comme un trèfle à quatre feuilles séché dans un annuaire de téléphone, comme une valise sur un quai. T'as l'air perdu comme un bouquet, t'as l'air paumé comme un vieux cheval qui court sur les tuiles de la ville, comme un masque blanc de carnaval sur la tranche d'une guerre civile, comme un dormeur au fond du val. T'as l'air perdu comme un cheval, dit t'es paumé comme un confetti dans une allée du Père Lachaise, un papillon sur un crucifix, une étoile de mer dans la braise, comme un remords dans un whisky. T'es perdu comme un confetti.
Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc je me présente, mon nom est Luc Carton, je suis philosophe. J'ai travaillé toute ma vie autour de l'éducation permanente populaire. J'ai travaillé ces 15 dernières années à l'Inspection générale de la culture, à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je suis depuis mai 2019 vice-président de l'Observatoire des droits culturels, de la diversité et des droits culturels de Fribourg, en Suisse. Il est clair que tous les travaux auxquels on se réfère emprunte une définition anthropologique de la culture, que ce soit celle de l'UNESCO, celle de l'Observation 21 ou celle de la Déclaration de Fribourg, qui est une déclaration civile. Peu importe, ce sont des définitions jumelles et qui d'ailleurs sont largement écrites par les mêmes personnes qui voyagent entre les trois structures, Nations Unies, UNESCO et Groupe de Fribourg. Et donc, j'ai la définition devant moi. Le terme culture représente les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions, les institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe définit son humanité. Ça, c'est splendide, ce moment de la définition. C'est presque un accident de langage. Ben, pas du tout. Évidemment, ça a été débattu et réfléchi longuement. Ils n'ont pas dit « exprime son identité », c'est sous-jacent. Mais s'exprime son humanité, c'est-à-dire sa commune appartenance au monde des humains. Ainsi que, et c'est essentiel, les significations qu'il attribue à son existence et à son développement, c'est-à-dire au sens qu'il donne à la socio-économie et à la sociopolitique. Donc la culture n'est plus un secteur, n'est plus un champ, elle est une dimension du réel, c'est l'ensemble des processus et des procédures de signification et leurs œuvres, les signifiés et les signifiants qui voyagent entre nous. Et donc la question des droits culturels, ce n'est pas un horizon inatteignable. À force de confiance et de confiance dans l'égalité entre les humains, il est possible d'y aller tout de suite aux droits culturels. Enfin, tout de suite, en prenant le temps, en prenant la durée avec nous. Mais y aller tout de suite, c'est-à-dire faire confiance aux infirmières et aux aides-soignantes des EHPAD sur le non-sens et le sens qui circulent dans les EHPAD aujourd'hui. Faire confiance aux enseignantes et aux enseignants dans leur difficulté d'enseigner aujourd'hui, tant qu'on n'a pas vraiment compris que l'école est démonopolisée dans sa transmission des savoirs légitimes. Confiance dans les ouvrières et les ouvriers quand ils nous disent depuis 50 ans bientôt pourquoi continuer à perdre notre vie et à la gagner. Un jour, petite anecdote, une petite histoire, toute petite. J'étais invité comme philosophe ambulant dans un dispositif d'insertion par la culture du côté de Roubaix-Tourcoing, dans le Grand Nord, quoi, la Sibérie. Et C'était un très beau système d'action. Et j'assistais à l'évaluation pluraliste des financeurs européens, des financeurs de la DAS et la CAF, etc., et des bénéficiaires, entre guillemets, des usagers du dispositif et bien sûr de l'équipe. Et les financeurs étaient inquiets. Ils disaient, vous avez un taux de rotation qui est faible, c'est-à-dire que les gens restent. Est-ce que vous n'auriez pas créé un assujettissement, une accoutumance? Une accoutumance à la culture, une accoutumance nuisible à la culture. Affolement dans les rangs. Alors, il y a un des bénéficiaires, un des acteurs de la scène qui s'éveille, qui dit, écoutez, moi, j'ai connu beaucoup de malheurs dans le travail. Et depuis que je suis ici, je suis devenu peintre, monsieur. Et depuis que je suis devenu peintre, j'ai une joie intérieure permanente. Et désormais, si vous me proposez vos boulots de merde, chez Carrefour, Jeux Positifs, Intermarché et autres endroits plaisants, eh bien, je le refuserai, je n'en veux pas de votre boulot de merde. Le seul boulot que j'accepterai éventuellement, c'est gardien de musée, monsieur. Et j'ai trouvé cette fable, cette petite fable ravissante, parce qu'elle montre l'indignité où nous conduit un mode de développement, un mode de production, un mode de domination capitaliste, post-industriel, de ce qu'on appelle les industries numériques ou les industries culturelles, et qui aujourd'hui nous façonnent nos façons de voir et de croire et continuent, approfondissent l'indignité du capitalisme. Et donc, le mot de cette personne qui refuse l'insertion parce qu'il lui faudrait une intégration critique, c'est-à-dire un changement de système pour accepter de retourner à l'emploi, ce sont des mots subversifs, ce sont des mots magnifiques, ce sont des mots pleins de culture.
Je vous propose que nous demandions à Patrice Meyerbich de nous définir ce que sont les droits culturels.
Voilà, merci beaucoup, bonjour.
La vie culturelle est donc prise au sens très large. C'est aussi bien les modes d'habitation, de logement, d'alimentation que les beaux-arts. Mais quand on dit les beaux-arts, c'est aussi les autres arts, puisque entre, si on prend le cinéma par exemple, eh bien, il y a tous les métiers techniques. Il n'y a pas que le ou les créateurs, c'est toute une chaîne de création. Et la chaîne de création, ce n'est pas seulement des producteurs, mais c'est aussi les gens qui vont aller au cinéma, puisqu'ils vont valoriser ces films et contribuer à son développement et à la création d'autres œuvres, bref, à la vie culturelle. Donc les droits culturels, ce n'est pas seulement le droit de participer à la vie culturelle, c'est tout un ensemble de droits qui concernent l'identité. Et donc c'est les droits de, on pourrait dire, les droits de connaître. Et c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans l'être humain, le droit de connaître et de reconnaître. Le droit d'être reconnu aussi, et ce qui veut dire aussi le droit d'identifier, de s'identifier et d'être librement identifié. On dit souvent que c'est des droits à la différence, mais ça n'a pas beaucoup de sens, puisqu'il n'y a que de la différence partout. Donc c'est aussi, et puis quelqu'un qui est très pauvre, par exemple, il n'a pas envie d'être différent, il a envie plutôt de ressembler aux autres. Donc, c'est pas seulement la différence, c'est à la fois la différence et la ressemblance, et c'est la liberté de choisir les références culturelles avec lesquelles on veut s'identifier, être identifié, avec lesquelles on veut être reconnu, reconnaître. Donc, chercher les références culturelles, ça veut dire les savoirs, tous les types de connaissances. Alors, si on dit savoir, ça fait un peu abstrait comme ça, dans notre vocabulaire habituel. Mais je prends ici savoir au sens de saveur. C'est les cinq sens. C'est le savoir des yeux, savoir regarder. Et on comprend très bien que le peintre ou tous les spécialistes de l'image, le photographe ou le cinéaste, mais ça peut être aussi l'architecte, ça peut être le couturier, ça peut être le maquilleur, etc. Il apprend à voir. Et donc, ce n'est pas un bel art qui serait à part, c'est quelque chose qui nous est à tous essentiel, puisque notre regard a besoin de se cultiver pour aller plus loin. Comme notre ouïe, comme notre toucher, comme notre goût, comme notre odorat. Et donc, nous avons besoin de ces cinq sens pour nous situer, pour nous reconnaître nous-mêmes, pour reconnaître les autres et pour reconnaître tout ce qui est dans notre environnement. Donc on est avec les droits culturels à un niveau qui est tout à fait fondamental, au même niveau que les droits, les autres droits humains, puisque c'est une question de dignité et de vie et de mort, puisque si on ne connaît pas sa santé, si on ne connaît pas ce qui est autour de soi, on n'est pas libre. On ne peut pas se développer. Mais plus encore, les droits culturels sont aussi nécessaires à la réalisation des autres droits humains. Si on prend l'exemple du droit à la santé, avec la crise sanitaire aujourd'hui, il est clair qu'on doit, on a le droit d'avoir, et on a intérêt, et on a aussi la responsabilité d'avoir une conception plus riche, plus puissante de ce que c'est que la santé et de ce que c'est que l'environnement, et qui va conditionner nos choix de vie, hein, quel type de santé on veut développer, quel type d'alimentation saine, etc. Qu'est-ce que c'est la liberté d'expression pour quelqu'un qui n'a pratiquement pas de pratique culturelle, autrement dit qui ne sait pas bien s'exprimer? Qu'est-ce que c'est que la liberté d'association pour la même personne? Qu'est-ce que c'est que la liberté de pensée, de conscience et d'opinion pour quelqu'un qui a peu de moyens, tout simplement parce qu'il sait à peine lire ou écrire? Il ne connaît pas la puissance de ça ou de ses langues, mais peut-être pas plus la puissance de son langage corporel. Il ne sait pas très bien bouger, par exemple. Il ne sait pas très bien lire dans la nature, etc. Donc, il a finalement peu de ce qu'on appellera de ressources culturelles. Et à ce moment-là, ses libertés sont comme des coquilles vides. Le lien fondamental, c'est le rapport entre droit à l'éducation, ce que je dirais, moi, le droit à la vie éducative ou éducationnelle, et le droit à la vie culturelle. Puisqu'il y a ce droit à l'information, à la formation, puis ensuite à l'information, qui va faire qu'il y a un continuum dans la vie. Et quand je dis ça, ce n'est pas encore non plus avoir simplement accès à l'information, mais c'est être capable de la produire. Et la même chose, c'est pas seulement avoir accès à l'éducation, mais c'est capable de vivre une vie éducationnelle, aussi bien en famille que dans une institution éducative, que de façon plus large. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que la culture, c'est la circulation des savoirs, et la circulation des savoirs qui donne du sens à tous les actes de la vie concrète. Et quand je dis qu'il donne du sens, ça va dans tous les sens. Qui donne du sens, ça veut dire que c'est donné par les cinq sens. Je disais tout à l'heure, on apprend, on cultive nos cinq sens, ça donne la direction où on veut aller et ça donne la signification, qu'est-ce qu'on cherche. D'où la notion maintenant de participer, si vous voulez, les droits culturels sont les droits de participer aux ressources culturelles qui sont nécessaires pour vivre librement son processus, on pourrait dire, de reconnaissance ou d'identification tout au long de sa vie. Participer, il faut le prendre maintenant dans trois niveaux. Prendre part, c'est d'abord accéder, évidemment, donc accéder à ses ressources. Donc on peut accéder à la bibliothèque, on peut accéder aux livres, on peut accéder aux films, on peut accéder à la peinture, on peut accéder à la nature aussi, à un paysage et quelqu'un qui nous instruits hein, de la forêt ou de la côte ou de la montagne. Donc accéder. Deuxième niveau, c'est pratiquer. Alors c'est pratiquer les exercices culturels, on pourrait dire, les travaux, c'est s'exercer à la peinture ou que sais-je. Et c'est pratiquer une langue, donc le dialogue, le débat dans cette langue, pratiquer la lecture. Et enfin, le troisième niveau, c'est contribuer. Donc contribuer d'une façon originale, y compris créer dans la mesure du possible. Ça veut dire qu'on prend part au même savoir. Prenez l'exemple de personnes, quel que soit leur âge, que ce soit des enfants à l'école primaire, que ce soit des ados ou des adultes, des personnes âgées, qui vont passer plusieurs jours dans la forêt avec deux ou trois personnes qui vont les éveiller à la fois à l'esthétique de la forêt, à la fois à sa biologie, à la fois à son utilisation, etc. Et chacun va faire cette expérience qu'il baigne dans un bien commun, en quelque sorte, un environnement commun, qui n'est pas seulement un environnement autour de soi, mais qui est aussi son propre corps. Et que on est soi-même très proche de la forêt et on en est membre d'une certaine façon. Et de ce fait, on fait aussi expérience de la communauté ou de la proximité, non seulement avec les arbres, les mousses ou les moustiques, mais aussi évidemment avec les autres êtres humains qui sont là. Donc il y a cette expérience. Et si on fait la même chose dans un atelier de peinture, on aura une expérience analogue. Oui, d'être à la fois très chacun sa personnalité et en même temps vivre des valeurs universelles chacun de façon originale. Une façon peut-être un tout petit peu plus précise, je pourrais dire, chacun a le droit de s'entendre dire « raconte-moi ton histoire, parce que ton histoire m'intéresse ». Pourquoi elle ne m'intéresse pas simplement par sympathie, par humanisme ou que sais-je, mais parce que chacun a quelque chose d'original à vivre et il faut qu'il le trouve. Donc ton histoire m'intéresse, mais comment tu vas me la raconter? Alors viens dans notre bibliothèque, tu vas voir d'autres histoires. Et c'est en lisant, en écoutant, en regardant d'autres histoires que tu vas aller chercher ton histoire, que tu vas l'écrire, que tu vas la dégager, que tu vas la sortir comme on va chercher une source. Et elle est puissante quelque part et elle a besoin de sortir. Donc si vous voulez, l'idée de droit culturel, c'est forcément celle d'émancipation. On a tous quelque chose qui s'ouvre en nous et qui est puissant et qui a besoin de sortir. Voilà. Et si ça ne sort pas, on est mal. On est mal, on n'est pas libre. Soit on peut simplement s'écraser un peu, hein, pas trouver son dynamisme, pas trouver vraiment son pouvoir d'agir, ou bien ça peut être aussi plus violent. Mais il y a besoin de découvrir chaque savoir comme étant un lieu de rencontre, comme d'expression, et surtout un lieu d'admiration. Voilà. La jouissance, on parle en droit de la jouissance d'un droit, et ici ça va très bien puisque c'est une jouissance qui est toujours sensuelle, n'est-ce pas, d'un savoir, et c'est vécu comme une expérience d'admiration, et c'est ça qui est libérateur. Admiration dit aussi capacité de révolte.
Prenez une page blanche et dessinez un être, un homme, une femme, un ange, un voleur ou un prêtre, et donnez-lui la main qu'il ne reste pas seul pour tracer son chemin des langes au linceul. Prenez une page blanche et dessinez un être en habit du dimanche, en clown, en roi peut-être. Et donnez-lui la main pour n'en pas faire un fou. Songez que cet humain, ce pourrait être vous. Et peignez son enfance de grands rires qui éclatent, des cerfs-volants qui dansent, des trésors de pirates. Et donnez-lui du pain, celui des gens modestes, qu'il apprenne à dompter sa faim quand la vie devient peste. Prenez une page blanche et dessinez un être, que sa beauté soit franche et pas que du paraître. Non, donnez-lui du cœur et l'envie de tenter, que vaincu ou vainqueur, il ne cesse de chanter. Prenez une page blanche et dessinez un être, une danseuse, un comanche, un amoureux des lettres. Oui, donnez-lui des mots et puis des choses à dire, des bouquets d'idéaux, tout un monde à bâtir. Peignez l'adolescence avec ses grands frissons, ses flirts, ses romances, ses appels d'horizon. Et donnez-lui des larmes, celles qu'on verse à 20 ans, car nulle beauté n'a plus de charme pour payer nos printemps. Prenez une page blanche et dessinez un être, que si sa maison penche, ouvrez grand ses fenêtres. Et donnez-lui l'espace avec des champs de roses, qu'il apprenne à trouver sa place dans la beauté des choses. Prenez une grande page pour offrir à cet être des amis, des voyages, du ciel, des feux, des fêtes, et donne-lui l'amour sans frontières et sans trêve, qu'il en fasse les craintes de ses jours et l'éclat de ses rêves. Sur ses pages moins blanches, dessiner l'âge adulte, mais sans que son cœur flanche, au contraire qu'il exulte. Oui, donnez-lui la force de hisser haut ses voiles, à l'heure triste où l'on rentre au port, qu'il s'accroche aux étoiles. Prenez une page blanche, mais ne soyez pas traître, ne la laissez pas blanche, peignez-y tout votre être et donnez-lui vos heures, qu'il apprenne à briller pour dissoudre dans ses couleurs les grains du sablier. Et peignez la vieillesse avec ses cheveux blancs, ce blanc que la page laisse à l'homme au fil des ans. Et donnez-lui la main pour entrer dans sa gloire, quand la page au bout du chemin devient notre mémoire. Tuez la page blanche pour peindre un grand tableau, tuez la page blanche pour écrire un grand livre, tuez la page blanche pour montrer tout le beau, tuez la page blanche pour dire on a su vivre.
Culturelle est fondamentalement une vie de réciprocité. Voilà. Je vous prends un exemple dans la famille entre les enfants et les parents, ou à l'école entre un élève et un prof. Vous avez une relation qui est asymétrique, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a un savoir qu'il doit diffuser ou enseigner. Enseigner, ça veut dire donner des signes de reconnaissance. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire que simplement celui qui est plus âgé, en l'occurrence, plus savant en l'occurrence, va simplement distribuer ce savoir? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas simplement donner un savoir comme on donnerait un livre ou une tablette de chocolat, mais il doit aller stimuler, chercher l'intelligence de l'enfant. D'accord? Et l'intelligence de l'enfant, elle peut être plus vive et plus ouverte que celle de l'enseignant. Et donc, l'activité éducationnelle ici, c'est une activité qui est réciproque et asymétrique. Alors, si moi je vais, par exemple, dans un festival de théâtre, où je ne suis pas du tout professionnel, je suis j'aime un peu beaucoup le théâtre, enfin, mais je vais aller voir des gens qui sont des hommes et des femmes du théâtre, qui, si tout se passe bien, vont m'éblouir. Mais vous comprenez bien que les acteurs de théâtre sur la scène, ils cherchent le public. Et c'est dans le public qu'ils vont trouver leur inspiration. Donc, on est à l'intime d'une relation réciproque, asymétrique. On a besoin, non pas, il n'y a pas des gens qui ont du savoir et d'autres qui n'ont pas de savoir, on a des gens qui ont des savoirs différents, à des stades différents. Si je suis apprenti dans un domaine, j'ai besoin d'un maître. Mais l'apprenti n'est pas celui qui sait rien, puisqu'il a du désir. Et le désir de savoir, c'est ce qui fait la force d'un savoir, hein, et qui va faire aussi sa liberté. Et donc, ce qu'on va faire, y compris dans une relation d'apprentissage comme ça, on va croiser les désirs et croiser les savoirs. Et la vie culturelle, c'est ça. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient excellents dans leur domaine. Oui, on en a besoin. Parce que ceux qui sont excellents dans leur domaine, ils ont une responsabilité par rapport à ceux qui ont envie d'apprendre. Je prends quelqu'un qui manie très bien la langue française, à l'écrit ou à l'oral, etc. On en a tous besoin. Et c'est pourquoi on a besoin de lire. C'est pourquoi on a besoin d'être bouleversé par des romans, par des poèmes, comme on a besoin d'être bouleversé par des films. Donc à ce moment-là, oui, celui qui est porteur de cette maîtrise culturelle, disons ça comme ça, qui est créateur d'œuvres, ou co-créateur d'œuvres, parce qu'on est tous aurait été co-créateurs, eh bien, on doit pouvoir diffuser ses œuvres. Voilà. Mais ceci dit, il n'y a pas d'un côté celui qui donne et celui qui reçoit, point. Voilà. Chacun donne et reçoit. Je prends cet exemple comme ça. dans la relation personnelle, mais je peux l'apprendre aussi dans la relation interdisciplinaire. Vous êtes entre le livre et l'image. Autrement dit, on peut dire ceci. Le livre a besoin d'images et porte vers les images. Les images ont besoin des livres et portent vers les livres. N'est-ce pas ? Comme la photographie va vers le cinéma, à la cinématographie et réciproquement, ou vers le poème ou vers la musique. Et l'intérêt de chaque discipline culturelle n'est pas seulement ce qu'elle sait faire, mais le fait qu'elle est hospitalière pour les autres. Elle va vers les autres. Le cinéma raconte des histoires, les livres racontent des histoires, nous portons nos histoires. Et dans ces histoires, vous avez des histoires visuelles, vous avez des histoires sonores, vous avez des histoires psychologiques, vous avez différentes dimensions. Et donc chaque discipline culturelle est en fait hospitalière, on pourrait dire qu'elle est au-dedans d'elle-même interdisciplinaire. Voilà. Et je pense que fondamentalement, pour augmenter l'attractivité d'une activité culturelle, c'est ça qu'il s'agit. Moi, je ne parlerai pas d'aller vers les publics, comme je vous ai dit. L'activité culturelle est publique. Cette multidisciplinarité ou interdisciplinarité est centrale. Parce que vous avez des gens qui vont être frappés surtout par telle entrée, une entrée visuelle, une entrée du cinéma et encore tel genre de film. D'autres vont être frappés par introduit, séduit par la musicalité, d'autres par la photographie du visage, d'autres par l'histoire elle-même, par la langue, etc. etc. Et on ne sait pas qui va être frappé par quoi. Et la vie culturelle est une vie esthétique dans ce sens-là. Esthétique veut dire les cinq sens qui se répondent. Donc, qui produisent la beauté. C'est cinq sens qui se co-répondent parce que chaque sens produit du sens. Voilà. Et donc, l'excellence d'une activité culturelle, c'est ça qui compte. Et donc, chacun doit apporter ce qu'il sait et dans ce qu'il sait, son désir. Si vous avez quelqu'un qui croit tout savoir, que ce soit un prof ou que ce soit un commissaire d'exposition ou que ce soit un médecin, eh bien à ce moment-là, c'est un étain noir. Ouais. Il viole les droits culturels des autres, puisque les droits culturels, c'est les droits de savoir et d'être reconnu comme capable de savoir, d'être reconnu comme capable de contribuer à une connaissance originale. Ici, il s'agit d'aller chercher l'intelligence de chacun, y compris quand il est très pauvre, y compris quand il est très marginal. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Oui. Donc on est au-delà simplement de dire c'est l'offre culturelle qui va vers ceux qui n'en ont pas, ou c'est le public ou la population qui doit dire ce qu'il veut. Il faut les deux. Voilà. Il faut les deux, mais pas n'importe comment. Et ce qui est difficile, c'est que c'est très intime, en fait. C'est à la fois intime et public. Et c'est ce qu'on sent. Si on aime le théâtre ou si on aime le livre, on sait qu'un livre, c'est un objet qui est un peu ordinaire. Hein. On le prend comme ça, c'est un objet. Et puis quand on l'ouvre, ça peut être magique. Quoi. Hein? Ça peut être magique parce qu'on est bouleversé par un livre. Et si on est bouleversé par un livre, on va forcément avoir envie de le donner à ceux qu'on aime. Oui, pour pouvoir l'échanger. Donc à ce moment-là, on s'ouvre à la vie. Voilà. Et c'est vrai pour toute œuvre de connaissance. Quoi.
Évadé de la tête d'un musicien poète ou pêcher dans les eaux d'un ruisseau en attendant que sèchent ces rimes toutes fraîches entre rire et frisson la chanson. Elle se tient sur la rive encore un peu craintive, elle ne connaît pas bien le chemin qui mène à vos oreilles, à vos cœurs qui sommeillent. Elle vous aime déjà, n'ose pas passeuses, passerelles, je les ferai pour elles. C'est pas si hasardeux pour nous deux. Berceuse ou ritournelle, pacifique ou rebelle, passeuse passerait le relais. Tissée de quelques notes, de quelques mots qui flottent, ou forgés dans le son des canons, issus d'une colère, d'une lutte sincère, ou bien chanson d'amour, troubadour, elle est là qui espère devenir familière, accompagner vos joies, vos émois, vous redonner courage quand la vie vous enrage, vous faire voyager plus léger. Passeuse, passerelle, je me battrai pour elle, la porterai très haut s'il le faut. Rengaine ou immortelle, duo d'amour cruel, passeuse que je suis, c'est ma vie. Passeuse, passerelle, toujours de vous à elle, et toujours d'elle à vous, je me voue. Et si à son tour elle veut me rester fidèle, passeuse, passe-temps, je chanterai longtemps.
La notion de démocratie culturelle, en gros, ça veut dire une démocratie qui met en œuvre les droits culturels. Partout, pas seulement dans la politique dite culturelle du ministère de la Culture, des DRAC ou des DAC, ou je ne sais plus quoi, mais qui la met partout, y compris dans les politiques de santé, dans les politiques d'aménagement des territoires, etc., et à tous les échelons de des territoires en France, et qui y fait participer évidemment tous les acteurs de la société civile, et y compris des acteurs économiques.
Si la logique des droits fondamentaux venait à être plus répandue, si elle se consolidait en dehors du secteur des centres culturels, si elle en venait à gagner d'autres secteurs, est-ce qu'on peut considérer que cette intégration est souhaitable ? Bon, mais d'abord, sur la base de la définition qu'on vient de donner du droit de participer à la vie culturelle, on voit très bien, en fait, les avantages qu'il y a à envisager les politiques culturelles en termes de droits. D'abord, cette appréhension peut contribuer certainement à une refondation au point de vue juridique et même éthique de ces politiques, en leur procurant une certaine cohérence d'ensemble, un certain angle d'analyse. On pourrait notamment repenser ces politiques en termes, donc, comme je disais, d'obligations déduites des droits fondamentaux. Donc, à un niveau plus politique, ce droit fondamental peut permettre de relégitimer une action en matière culturelle qui apparaît comme étant clairement en perte de vitesse, en ancrant l'action publique dans le domaine culturel dans un principe démocratique et non plus idéologique ou politique. L'idée, c'est que donc on pourrait les protéger contre un mouvement qui tend à fragiliser ces politiques. De plus, repenser les politiques culturelles à partir du droit de participer à la vie culturelle permettrait sans doute de construire de nouvelles réflexions sur les politiques culturelles, de nouveaux outils d'analyse et d'évaluation qui changeront sans aucun doute l'image que l'on se fait des problèmes posés dans ces politiques et qui permettraient de garantir le maintien de certaines politiques culturelles contre des éventuelles velléités de libéralisation ou de privatisation totale du secteur. Enfin, l'intégration de la logique des droits fondamentaux dans les politiques publiques devrait permettre le développement d'une évaluation rigoureuse de ces politiques qui pourrait mobiliser des critères, des indicateurs et des méthodes qui sont déjà développés en matière de droits fondamentaux dans d'autres domaines. Mais on ne peut pas balayer d'un revers de la main les très nombreux auteurs qui ont critiqué les droits fondamentaux par rapport au déclin du politique qu'ils entraîneraient. Les droits fondamentaux qui, au départ, étaient fondés sur des principes de droit naturel, donc sur une conception naturaliste des droits fondamentaux, étaient sévèrement critiqués. Marx considère que les déclarations révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle ne font que masquer les inégalités sociales et qu'en fait, ils ne profitent qu'à une société bourgeoise et aux intérêts capitalistes. Pour Burke, les droits fondamentaux ne peuvent être des prémices qui précèdent une organisation politique, ils sont nécessairement donnés par cette organisation politique, ils ne sont pas métaphysiques. Marcel Gauchet, plus récemment, considère que les droits fondamentaux ont conduit à un déclin du politique, ainsi que de l'aptitude d'agir au niveau social, un déclin de l'action collective. L'autonomie individuelle qu'il prône aurait pris le dessus sur l'autonomie collective. Alors que l'autonomie individuelle avait été pensée comme renforçant l'autonomie collective, en réalité, selon cet auteur, la mise en avant des libertés s'est accompagnée de la dissolution des liens sociaux. Et il ajoute, en raison de leur nature essentiellement conciliatrice, consensuelle, les droits fondamentaux auraient conduit à un assèchement des conflits sociaux et culturels, conflits pourtant essentiels pour le maintien de la démocratie, puisqu'on peut considérer que la démocratie, c'est notamment la mise en débat des différentes conceptions du monde, la mise en conflit des différentes conceptions du monde. Donc finalement, à lire ces auteurs, le risque n'est pas mince de proclamer une fois pour toutes, à travers les droits fondamentaux, ce qu'est ou ce que doit être la nature de l'homme et ce que doivent comporter les droits fondamentaux. De nombreux auteurs ont justement montré, justement pour s'en sortir, que la justification et la fin des droits fondamentaux résidaient précisément dans l'idée démocratique. Donc, par exemple, Philippe Gérard de l'Université Saint-Louis, Claude Lefort, Alain Touraine notamment, développent une approche vraiment démocratique des droits fondamentaux. L'idée c'est que la démocratie est le principe à partir duquel les droits fondamentaux sont justifiés et qu'elle est également le principe à partir desquels qui détermine leur portée par rapport aux politiques. Dans cette conception démocratique des droits fondamentaux, les droits sont ouverts, sujets à évolution, sujets à débat, sujets à conflit. Ils ne sont pas fixés une bonne fois pour toutes. Mais donc dans ce contexte, les droits fondamentaux sont constamment réinterprétés, reformulés, et des demandes pour de nouveaux droits émergent constamment. Donc dans cette conception démocratique, les droits fondamentaux en fait, garantissent deux principes substantiels de la démocratie, l'autonomie et l'égalité. Ils permettent bien sûr d'établir des communautés démocratiques à travers des droits de participer au débat démocratique, mais ils permettent également à tous les citoyens d'y participer effectivement. Donc, dans cet esprit, ils constituent réellement les limites et les fins de la volonté collective et de la société démocratique. Donc, il y a une importance capitale à s'assurer que les droits fondamentaux ne deviennent pas des substituts de la politique, mais un vecteur de vitalisation de la démocratie, un moyen d'améliorer les capacités des individus à participer au débat démocratique et à reconstruire une vie politique collective. Donc, à condition d'être le lieu de ce débat, à condition de maintenir une sphère publique riche et qui va mettre en conflit, qui va mettre en débat les différentes idées, de permettre aux citoyens de participer à cet espace public, alors, à notre sens, le droit de participer à la vie culturelle peut jouer un rôle positif et légitime dans la reconstruction, le renouvellement et l'approfondissement des politiques culturelles.
Les droits culturels des personnes sont ainsi à comprendre comme un devoir collectif, une responsabilité politique de permettre aux personnes de devenir toujours, sinon libres et dignes, tout moins un peu plus libres et un peu mieux reconnues dans leur dignité. Non pas pour faire société, comme je l'entends tellement souvent, non pas pour faire société, mais pour faire humanité ensemble. Toutes les sociétés ne sont pas recommandables. La responsabilité politique des droits culturels consiste à organiser les dispositifs de mise en relation entre les cultures, qui sont toutes différentes, entre les personnes singulières, à organiser des dispositifs d'interaction culturelle pour réduire au maximum les situations où ces cultures s'éloignent les unes des autres, cultivent la peur et la haine des autres, et même se contente d'une tolérance polie, faite d'indifférence pour la culture d'autrui. La responsabilité culturelle, elle est maintenant de favoriser la relation de respect réciproque qui amène avec elle le compromis où chacun reconnaît l'autre dans sa liberté et sa dignité. c'est pas d'être libre pour ma culture. C'est tout simplement l'apprentissage de cette liberté sociale, c'est l'apprentissage de cette discussion, peut-être dure, peut-être difficile, avec les cultures des autres. C'est l'apprentissage donc de la démocratie pour faire un peu mieux humanité ensemble.
C'est là qu'on retrouve glissant l'idée d'interagir entre ces cultures de personnes libres, reconnues comme dignes et permettant au fond la créolisation du monde et pas simplement l'intégration à une culture qui serait déjà faite et sur laquelle il faudrait quasiment renouveler peut-être comme l'histoire du hip-hop. Un bon hip-hopper, on le met dans un centre dramatique. C'est un autre enjeu, c'est l'enjeu effectivement de la créolisation du monde.
Le métissage, c'est une mécanique. Le métissage, c'est le mélange de deux gènes ou de deux séries de gènes ou de deux séries de corps ou de deux séries de... Mais la colonisation, c'est le métissage qui produit du nouveau. La relation comprend la colonisation, n'est-ce pas ? La relation peut perfectionner la colonisation, peut la faire avancer. L'idée de la relation peut faire avancer le processus de colonisation. Au fond, la relation, c'est, on pourrait dire, si on était idéaliste, c'est la spiritualité de la colonisation. Ou alors, disons, en étant matérialiste, la relation, c'est le produit fini de la colonisation. Il me semble qu'avec les cultures composites, la question ne se pose plus de la propriété de la terre. La question ne se pose plus de la légitimité de l'origine d'une communauté, de préserver la pureté ou l'intégrité culturelle, etc., de la communauté, n'est-ce pas ? Plus le monde avance dans sa relation, on a toujours, bien sûr, des peuples qui en oppriment d'autres, des peuples qui en massacrent d'autres, mais on a de plus en plus la notion de peuple qui en contamine d'autres. Et je pense que cette contamination par la culture, qui est positive, c'est le mouvement même et l'essentiel même de la situation des communautés actuellement dans le monde. Et il faut pousser là. Ça devient un devoir de considérer que mon identité en tant qu'identité n'est pas une identité close et que ce n'est pas une identité que j'essaierai d'imposer aux autres. Il faut avoir la grandeur, je dis bien la grandeur, de considérer qu'on peut changer tout en restant soi-même. Et pour moi, c'est toute la simplicité fondamentale à laquelle nous devrions pouvoir arriver, mais à laquelle nous n'arrivons pas parce que tout le monde recule, tout le monde dit « Ah non, si je change au contact de l'autre, ça veut dire que je suis perdu, je me suis perdu, je ne suis plus moi-même, etc. etc. » Et tout le monde recule, n'est-ce pas ? Et je dis que tant que nous n'aurons pas fait ce saut de l'imaginaire et de l'humain, et quelque chose qui ne marchera pas dans le monde, quelque chose ne marchera pas dans le monde, et qu'il faut faire ce saut-là.
Quand je dis que, par exemple, que le monde se créolise, ça ne veut pas dire qu'il devient créole à la manière des créoles de la Caraïbe, ça veut dire que le monde rejoint ses propres diversités, que le monde comprend enfin que son unité passe par une infinité de diversités et qu'il faut les assumer toutes. Nous découvrons que nous sommes chacun, l'un à l'autre, un archipel. Nous sommes des archipels, les uns pour les autres. Et nous découvrons que nous avons abandonné les énormes prétentions des pensées continentales, ces pensées somptueuses, massives, impérieuses, qui ont produit de très belles choses, mais qui ont souvent été mortelles pour les hommes et les humanités, et qu'à ces pensées de système et à ces systèmes de pensée, nous opposons le frémissement de l'archipel, le frémissement de ce qui s'ouvre et de ce qui partage. Nous découvrons qu'il y a des langues où il y a 200 manières de dire l'eau, l'eau qui ruisselle, l'eau pure, l'eau sur les roches, l'eau qui s'évapore, l'eau de la rosée. Nous découvrons ces merveilles et nous découvrons que nous voulons entendre ces voix du monde. Non pas les comprendre, les ramener à notre propre système de valeurs, mais tout simplement baigner dans leur lumière et dans leur rythme. Et nous découvrons ainsi que ce que nous partageons là, c'est, j'appelle ça, une pensée du tremblement. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas l'hésitation. Le tremblement, c'est vivre du tremblement du monde et refuser les systèmes, refuser tous les systèmes contraignants. Et nous découvrons qu'il y a un grand plaisir à partager ces voix.
J'ai chanté les poètes, je me suis mise en tête de faire une ouverture au mur de la culture chez ceux pour qui l'école, ça n'était que d'école. J'ai fait sonner les pieds des odes et des sonnets sur les chemins de terre, sur les cours en mâche-fer, dans tout un tas d'endroits où ils ne venaient pas. J'ai chanté les poètes, Hugo, Nazim Hikmet, Aragon, Neruda, Lesval, Garcia Lorca. J'ai chanté les poètes à des gens en goguette, aux galas de plein air ou aux fêtes des mères, et même aussi parfois dans des cafétérias. J'ai chanté les poètes dans des salles de fête, éveillant tout à coup l'attention de beaucoup qui vivaient écartés souvent de la beauté. J'ai chanté les poètes Hugo, Nazim Hikmet, Guy Levic, Macorlan, Éluard et Bruant. J'ai eu ma récompense dans le regard d'enfance aperçu au passage dans les plis d'un visage marqué par les années durement traversées.
Oui, vous faites l'expérience quand vous parlez à quelqu'un, vous allez chercher votre intelligence dans la personne avec qui vous parlez. Et donc, plus vous vous rencontrez dans un espace commun, une langue commune, un désir commun, un imaginaire commun, enfin que vous rendez commun par le dialogue ou par une activité créatrice, quelle qu'elle soit, plus vous êtes vous-même. Donc, on n'est pas dans une opposition ou bien je suis individuel ou bien je suis collectif. On est dans une l'approche culturelle en général, c'est de dire plus on va au fond de soi-même, plus on découvre des valeurs communes. Voilà. Et pour trouver ces valeurs communes, il faut aller les chercher dans le regard d'autrui, quoi. Ce que fait n'importe quel, je dirais, artiste qui est passionné par son art, c'est qu'il veut créer quelque chose pour le voir lui, mais pour le voir lui, il veut le montrer à quelqu'un, enfin, et qui va rendre son regard. Et c'est dans cet échange de regard qu'on va pouvoir trouver quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, mais qu'on pressentait, voilà, plus ou moins. Et la notion d'émancipation, c'est ça, c'est libérer la force du désir, et c'est à la fois un désir de savoir et à la fois un désir, on pourrait dire, d'aimer. Hein? Parce que quand on est amoureux, on veut connaître la personne qu'on aime. Et voilà. Et on veut la connaître pour l'aimer. Mais c'est vrai dans toute activité culturelle. Pour le biologiste qui veut connaître la forêt, plus il la connaît, plus il en est passionné, plus il l'aime. Et donc, si vous voulez aimer savoir et savoir aimer, c'est ça qui fait le cœur de la vie culturelle. Aimer savoir et savoir aimer. Et à ce moment-là, effectivement, on est libéré de l'individualisme au sens un peu bête du terme, mais on accède à une vie personnelle beaucoup plus intime, mais une intimité qu'on peut partager au prix de la création. Hein ? On ne partage pas simplement comme ça, mais au prix de... on aime un même livre, on aime un même cinéma, on aime un même paysage, on aime une même histoire, on aime une même... engagement politique, et en fonction de ça, mais chacun il apporte sa pierre d'une façon différente, et c'est dans ce croisement des savoirs que va se trouver un peu plus de rapport au réel, voilà, y compris le réel qui est en soi. On est tous des êtres de désir, voilà. C'est tout simple, mais c'est pas évident. Et chacun a le droit de libérer ce désir. Mais c'est pas seulement un désir anarchique, c'est un désir qui cherche son instruction. Oui. Parce que sinon, il tourne en rond.
Des corps, de la bricole et un de ces merdiers
sur Radio Piquesse.